pour cette année du séminaire Jean Lacanien. Donc le thème cette année c'est inégalité. Alors ce soir inégalité homme-femme, et je précise que dans quelques mois il y aura aussi une séance sur inégalité femme-homme. Et cette année il y aura des invités, enfin, 4 invités de différents domaines de recherche, et évidemment aussi des collègues dépendants du champ lacanien qui interviendront. Et donc, nos trois intervenants ce soir, c'est Anita Iskovic, psychanalyste à Paris, David Bernard, psychanalyste à Rennes, Hélène Pellier, psychanalyste à Paris. Et donc, c'est. Je donne la parole d'abord à Anita Iskovic, qui va parler de l'inégalité de la femme.
Alors, je me demanderai dans un premier temps quelles sont les inégalités concernant les femmes qui marquent le monde aujourd'hui.
Voilà, c'est ça, fait la plus importante.
Donc, quelles sont les inégalités concernant les femmes qui marquent le monde aujourd'hui? Quelles formes prennent-elles? Je ferai référence à l'actualité et aussi à ce qui a parcouru l'histoire, en me proposant de saisir ce qu'il y a de commun entre les deux. Il est frappant que, dernièrement, à l'occasion du sommet du G7 fin août à Biarritz, on ait promis un G7 féministe, car l'égalité femmes-hommes doit devenir une cause mondiale. Il a été établi à cette occasion un parallèle entre l'inégalité financière entre les riches et les pauvres et l'inégalité entre les hommes et les femmes qui engendre la violence. On réfère donc l'inégalité des sexes à l'inégalité des classes dans un discours politique qui est présent aujourd'hui comme dans l'histoire. Rappelons-nous comment Olympe de Gouges a calqué ses articles de la Déclaration des droits de la femme de 1791 sur celle des droits de l'homme de 1789. Les auteurs disent qu'il y a un parallèle entre la lutte des classes et la lutte des sexes. Que ce soit en 1830 ou en 1970, l'idéologie féministe est contemporaine de l'avènement de la pensée démocratique et socialiste. Comme on le sait, il y a différents points de vue dans le féminisme pour défendre les femmes contre leur inégalité. Rappelons-nous comment Gisèle Halimi, c'est d'actualité puisqu'elle a été interviewée dans Le Monde cet été, a défendu la cause des femmes, qui est le titre d'un de ses livres, notamment dans des procès concernant l'avortement, pour, je la cite, « réussir là où l'égalité économique a échoué, là où la culture patriarcale a résisté ». Elle ajoute que la femme est rendue invisible en étant rejetée de la res publica. Ses tâches domestiques ne se voient pas parce qu'elles ne sont pas incluses dans le produit national brut, comme a pu le dire Marx, ou ne génèrent pas de plus-value, comme a pu le dire Isabelle Laria. Il faut donc, selon Gisèle Halimi, à l'époque, libérer les femmes comme on a libéré le prolétariat, faire qu'elles soient égales aux hommes dans les tâches nobles du travail, dans le droit de prendre des décisions politiques et économiques. Cela doit être accompagné du droit de décider de leur jouissance, de se réapproprier le contrôle de leur corps, avec notamment le droit d'avorter quand une grossesse n'était pas désirée, selon la formule « notre ventre nous appartient ». Il s'agit donc, en s'autorisant de son sexe, de renverser le rapport de l'homme qui dispose du corps de la femme. Il y a eu, à la même époque, Xavier Gautier, qui a ouvert la voie non plus à des devoirs ou à des droits, mais à s'autoriser à parler de son sexe, notamment dans le livre « Paroles d'avortés » qui recueillait des témoignages sur l'avortement, qui renvoyait à la solitude et au silence, au clandestin et à l'illégal, dans l'angoisse de mort, face à la prise directe avec le réel du corps. Elle a suivi le fil de la béance des paroles de femmes dans l'ouvrage écrit avec Marguerite Duras, « Les parleuses ». Elle a souligné l'inégalité entre les mots des hommes qui sont « pleins, alignés, entassés », alors qu'au contraire, les mots des femmes ressembleraient à une herbe un peu folle, maigrichonne, qui pousse dans les interstices entre les vieilles pierres. Ce sont des phrases inachevées, les phrases des femmes, en suspens, des mots perdus, sans modèle, recherchés dans leur état premier, avec des failles, des blancs, qui, dit-elle, inscrivent les effets inconscients. Elle ajoute que ces paroles renvoient à ce qui se lit de ce qui n'a pas été dit, et il s'agit de ne pas polisser les paroles des femmes dans une ordonnance grammaticale. On saisit ici à quel point la femme se veut inégale à l'homme dans ses paroles, mais aussi inégale à elle-même, ce qui est une autre version de l'inégalité. En cherchant la béance d'une parole qui la définit jusque dans son inconscient, en opérant dans les interstices des mots des hommes, en étant hors police, hors ordonnance, hors ce qui fait loi chez un homme. Le paradigme de cette parole creusée en elle-même est, pour ces deux auteurs dans Les Parleuses, l'Olvestein, pour laquelle un chaînon a manqué, il y a eu un blanc, disent-elles, qui a fait qu'elle n'a pas pu vivre la douleur et la jalousie. Elles ajoutent que c'est ce même blanc qui constitue la sexualité de la femme. C'est un vide auquel la femme est en prise et que l'homme n'a pas dans sa sexualité. On a donc ici une inégalité affirmée par rapport à l'homme, non pas dans la revendication de quelque chose qui manque et que l'homme aurait, mais qui est située dans une vérité propre à l'être féminin qui émanerait des lacunes du discours. Quant à Marguerite Duras, dans ce livre, elle dit qu'elle ressent une douleur à écrire du fait qu'elle travaille sur une région qui n'est pas encore creusée. Si on se reporte du côté de ce que Lacan a dit de la littérature, précisément dans son article sur l'hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de l'Olvestein, c'est que l'artiste précède toujours le psychanalyste et qu'il y a à reconnaître dans le texte de Duras ce qu'elle sait sans lui ce qu'il enseigne. Et si on se demande qu'est-ce que Duras sait sans lui ce qu'il enseigne, jusqu'à si bien l'écrire, c'est que, Lacan dit en ces termes, la pratique de la lettre converge avec l'usage de l'inconscient, de même que l'ol est dérobée à elle-même, soit dérobée de l'image de soi dont l'autre l'a habillée, parce qu'elle n'a pas su trouver le mot dans l'indicible de sa nudité. D'autre part, on remarquera que le discours féministe a pu s'imprégner de la psychanalyse. Donc là, ce n'est pas savoir sans Lacan ce qu'il enseigne, mais introduire les concepts lacaniens dans le discours féministe. Je mentionnerai simplement Antoinette Fouque, qui a fait, dit-elle, une analyse avec Lacan, et qui utilise précisément les termes de la psychanalyse pour faire, on peut dire, le culte de la femme, en revendiquant son inégalité par rapport à l'homme, dans ce qu'elle appelle une féminologie, une gynéconomie, soit une science de la femme, en tentant de lui trouver une écriture qui, dit-elle, ne serait pas du semblant. C'est ainsi qu'elle est contre la femme qui serait le phallus érotisé de son maître et qui abandonnerait son corps en otage. Elle évoque alors le phallus comme un étalon destructeur à l'origine du génocide. On remarquera qu'elle utilise le terme de forclusion, non pas pour dire que le phallus est forclos pour une femme ou pour un sujet, mais pour dire que c'est le corps de la mère qui est forclos pour l'homme qui, dans sa dictature virile, a détruit la femme. Ce qu'elle fait valoir, c'est la femme comme lieu de création, de procréation, de gestation de l'être humain, dans une libido utérine et femelle. Il y a donc eu plusieurs façons d'être féministe, soit en défendant l'égalité des droits entre l'homme et la femme, soit en défendant l'inégalité de la femme en rapport en elle-même, face à la béance indicible de son sexe, soit en renversant le rapport d'inégalité de la femme dont on fait le culte, soit encore en se voulant le maître de l'homme qu'on domine. Puis il y a eu, dans les années 2007-2009, des philosophes comme Geneviève Fraisse, Michela Marzano, Sylviane Agazinski, qui ont développé, dans le but de défendre une éthique, comment la femme devait être sujet de son désir et de son sexe en consentant à être objet de désir de l'homme. C'était faire usage de son inégalité pour être non plus objet ravalé par l'homme, mais sujet inscrit dans la satisfaction d'être objet de désir de l'homme. J'en viendrai maintenant au deuxième point qui défraie la chronique aujourd'hui, qui concerne les féminicides, en rapportant l'inégalité homme-femme à la violence conjugale qui est en augmentation. La question est de comment traiter ce problème en créant des foyers d'urgence et en pénalisant le délit. Évidemment, ce qui est ajouté aussitôt, c'est qu'il faut établir une loi qui définisse à partir de quand on estime qu'il y a violence. Tout comme c'était le cas pour le viol, aussi, à partir de quand y a-t-il viol ou consentement. Dans ce contexte, ce n'est pas anodin que les deux prix Nobel de la paix qui ont été attribués en 2018 ont concerné la violence exercée sur des femmes prises comme arme de guerre. On peut saisir que ce n'est plus seulement référer la lutte des sexes à la lutte des classes, mais à la lutte entre Eros et Thanatos, entre le désir sexuel et la pulsion de mort. Un des prix Nobel a été attribué donc au gynécologue Denis Mukwege, fondateur d'un hôpital au Congo concernant la chirurgie réparatrice des femmes victimes de violences sexuelles suite aux affrontements des clans adverses pour s'accaparer les richesses des multinationales. Les femmes violées et mutilées par des hommes du clan adverse devenaient alors exclues de la société africaine puisqu'elles avaient perdu les marques de leur identité, leur honneur et leur fertilité pour leur mari. Le deuxième prix Nobel a été attribué à Nadia Mourad, irakienne. Elle témoigne à partir de son livre « Pour que je sois la dernière », de sa fondation et de ses conférences faites à travers le monde, de comment, en 2014, les djihadistes de Daesh ont rassemblé tous les habitants du village pour tuer les hommes et vendre les jeunes filles pour devenir les esclaves sexuels des combattants de l'État islamique. L'inégalité se situe ici entre la femme et l'homme, soit l'autre envahisseur qui, en l'anéantissant, la confronte au vide de sa représentation. On peut dire que la femme devient alors inégale dans son être, exilée de ses marques d'appartenance à sa culture et à son sexe. Il s'agit là d'une béance creusée dans un déchirement de soi-même face au vide de l'absence de signifiant qui ne peut plus la définir. C'est toucher à la femme qui n'existe pas en tant qu'il n'y a plus d'autre pour la représenter, ce qui la fait étrangère à elle-même. On peut se demander quelle est alors la fonction de créer une fondation pour défendre la cause des femmes exterminées. C'est ce qui permet de fonder un lieu où sont déposées les marques qui soutiennent la représentation de la femme, qui marque sa place qui ne peut rester vide. C'est finalement donner sur cette frontière de l'irreprésentable une boursouflure de vie, en la faisant résonner sur la marque originelle de la vie devenue vide, pour donner une matière à ce qui s'est creusé comme inégalité en soi-même. J'en viendrai donc maintenant à interroger comment une femme peut savoir y faire avec son inégalité. Je prendrai l'exemple du colloque qui a eu lieu à Berlin en octobre 2001, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la déportation et du patrimoine des archives, qui a eu pour but de restituer ce que furent les combats de femmes résistantes durant la Seconde Guerre mondiale. Ce que le colloque a voulu montrer, c'est comment, même si la résistance a été effectuée aussi bien par les hommes que par les femmes, il y avait un acte de résistance propre aux femmes elles-mêmes, qu'il fallait inscrire comme patrimoine dans notre histoire. Les caractéristiques de l'acte propre aux femmes étaient, disent les auteurs, d'être sur le seuil entre deux territoires, familial et politique, visible familial et invisible politique, dans le sens où c'est en donnant à voir des actes de la vie familiale et domestique, visible donc, qu'elles opéraient un acte politique dissimulé. Il s'agissait de séduire ou tromper l'ennemi, paraître du même bord que lui, pour obtenir des passe-droits, pour assurer les liaisons et traverser les deux territoires de la France libre à la France occupée. C'était se faire absente dans son acte, ou encore n'être jamais là où l'autre pense la saisir, soit se dérober après avoir fait gonfler l'ombre de son habit trompeur, pour aveugler l'ennemi dans un excès de forme, pour pouvoir opérer dans l'invisible et y inventer des réseaux qui allaient jaillir de leur inexistence. Ce qu'on peut appeler la grande facilité ou liberté des femmes à opérer avec le semblant rejoignait leur capacité à attendre que des signes surgissent là où on ne les attend pas afin que l'acte soit possible. C'est donc ce qui touche à la structure de l'autre, du grand autre, en rapport avec l'absence de signifiant. On peut dire que pour opérer dans son acte de résistante, la femme se faisait autre, elle se faisait même dans l'autre, et c'est sur cette frontière avec l'autre qu'elle a pu faire tourner le discours totalitaire. Le but était de trouer le discours de l'occupant, de le rendre inégal à lui-même, pour renverser le rapport de force. Alors, comment entendre cette inégalité qui est de structure entre la femme et l'homme, qu'on retrouve aussi bien dans le discours politique et économique que dans la littérature féministe ou dans l'acte créateur? Freud expliquait d'où venait le mépris d'un homme pour une femme, sous la forme du ravalement de la femme, de l'horreur du sexe féminin face à la menace de la castration, ou sous la forme du tiers lésé, en désirant prendre la femme de l'homme rival dans le complexe d'Œdipe du garçon. C'est ce qui, de structure, sous-tendrait la violence d'un homme sur une femme. De même que la femme aurait tendance, pour Freud, dans son sentiment d'infériorité, à soit partager le mépris du sexe mâle pour le sexe féminin, soit à se révolter contre cela dans la revendication phallique. On peut donc dire que chacun des sexes subjective cette inégalité entre les sexes dans son complexe de castration. Quant à Lacan, on saisit qu'il va au-delà du rôle de la castration sur lequel Freud s'est arrêté, quand il situe la femme comme exclue des mots. À partir du signifiant extérieur et impossible à signifier de la femme, on peut dire que l'homme tente d'affirmer la puissance de ces objets phalliques, qui sont des substituts du grand autre, pour réduire la femme à néant et au déchet de l'être. On rappellera que selon Lacan, la civilisation, c'est les goûts, et qu'elle renvoie à ce qui fait déchet de notre être. Ce que l'inégalité des sexes produit, c'est de tenter de combler l'impossible conjonction entre les sexes. C'est ainsi qu'un homme cherche à faire d'une femme dont le signifiant lui est étranger ou inégal, quelque chose de réciproque, en l'introduisant dans une emprise qu'il a réduit au rien et au déchet pour y invoquer sa jouissance. C'est alors qu'une femme, dans son inégalité, est parfois réduite à occuper cette place d'objet de la violence d'un homme ou d'un maître qui envahit un pays. C'est sur le seuil de sa solitude qu'elle peut alors chercher, dans la création d'un discours ou d'une fondation, comment se faire représenter à partir de son invisibilité ou de sa déchéance. La société tente alors de légiférer la violence avec de nouvelles lois ou à protéger avec des instances comme celle de l'ONU, sachant que ce n'est pas aussi efficace qu'il serait nécessaire. Quant aux différents discours sur l'inégalité de la femme, ils tentent de donner de nouveaux modèles d'identification ou une éthique, soit un art de diriger sa conduite ou la conduite de l'homme pour redonner à la femme une dignité qu'elle aurait perdue. Je laisserai là le discours concernant le malaise dans la civilisation pour me demander quelle est la fonction du discours analytique pour un sujet. Car chaque sujet, qu'il soit homme ou femme, souffre de son inégalité avec l'autre, ainsi qu'avec le partenaire, dans ce qu'on nomme aujourd'hui l'inégalité entre la richesse et la pauvreté, c'est avec l'autre, et l'inégalité des sexes, c'est avec le partenaire. Cependant, le sujet souffre aussi de son inégalité avec lui-même, avec son Nebenmensch au cœur de la chose, de son inégalité avec le grand autre dans lequel il veut croire pour le faire exister. C'est avec cela que le sujet vient à l'analyse, dans laquelle il va élaborer ce qui fait pour lui inégalité dans son rapport à la castration, dans ce qui fait disjonction entre le réel et le semblant, sur le bord de la lettre entre savoir et jouissance. C'est bien en cela que pour la psychanalyse, l'inégalité de base, qu'on peut écrire en deux mots avec un tiret entre, concerne l'inexistence de la femme, qui est, comme le dit Lacan, la lettre en tant qu'elle est le signifiant qu'il n'y a pas d'autre. C'est ainsi que le sujet, au fur et à mesure qu'il avance dans son analyse, cesse de chercher à écrire la mesure de l'inégalité entre les sexes, puisque le rapport sexuel ne peut s'écrire. Il cesse de souffrir de l'inégalité entre lui-même et l'autre, le petit autre, puisqu'il rencontre la béance de l'inexistence de l'autre, du grand autre. Précisément parce que l'homme et la femme sont aussi étrangers qu'ils ne sont pas réciproques, puisque leur rapport n'existe pas.